Bonjour à tous. Donc, on m'a gentiment présenté, je m'appelle Joseph Chaffir et je viens effectivement de l'assemblée de sœurs d'Antibes. Et voilà, c'est une vraie joie pour moi de me retrouver ici, dans le cadre de ces échanges de chairs qu'on fait entre nos trois églises sœurs, avec Nice, avec Antibes et Grasse. Et en fait, pour moi, c'est une première. Donc, c'est ma première fois devant une église sœur. Et je vous remercie de me recevoir ce matin. C'est une joie aussi de pouvoir visiter d'autres églises, parce que je crois que c'est quand on visite d'autres assemblées qu'on touche un tout petit peu du doigt comment Dieu voit son église avec un grand E. C'est vrai qu'on a, le Seigneur nous encourage au travers de Paul de ne pas quitter nos assemblées. Mais de pouvoir visiter d'autres assemblées dans la paix, dans la joie, ça nous permet un petit peu aussi de voir c'est quoi cette grande église avec un grand E. Et moi, je me languis le retour en gloire de notre Seigneur pour qu'on puisse voir vraiment l'église comme lui, il la voit. Alors, c'est pas de cette vision-là que je vais vous parler ce matin. C'est plutôt le contraire. C'est comment est-ce que nous, on voit notre Seigneur Jésus-Christ ? Et pour ça, on va lire un passage dans Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 8. C'est pile poil au milieu de cet évangile-là. On va lire les versets 22 à 33. Et en fait, on va lire en trois fois. Ça a toujours été la volonté de Dieu que de sauver les hommes, de créer son peuple, de créer l'Église, de les arracher au péché. Son plan, il n'a jamais changé. Il l'a dévoilé au travers de l'Ancien Testament. Alors c'était voilé, mais il y avait une espérance et les prophètes espéraient voir exactement ce qui allait se passer. Et puis on a les évangiles où on voit le plan du Seigneur pour le salut de l'humanité qui se déroule. C'est la grande question que je vais aborder ce matin, c'est pas comment Dieu nous voit, mais comment lui on le voit. Est-ce qu'on le voit tout court? Est-ce qu'on est aveugle? Est-ce qu'on le voit clairement? Parce que si notre désir est de suivre Jésus, alors il vaut mieux le voir. Et il vaut mieux le voir clairement. Parce que sinon on risque de se tromper de chemin, ou on risque de se tromper de personne et de ne pas suivre la bonne personne. Et cette façon dont on voit Jésus est tellement importante qu'à ce moment du récit de Marc, Jésus déploie toute sa pédagogie, toute sa patience, tout son amour envers ses disciples pour lui montrer à quel point c'est important la façon dont il le voit. Et puis nous aussi. Donc je vais lire d'abord les versets 22 à 26. Et puis on va s'attarder un peu dessus et on va aller jusqu'au verset 33 comme ça. Alors moi je lis dans la version Semeur, donc si vous avez un peu des différences, ne vous inquiétez pas. Ils arrivèrent à Bethsaïda, on amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas au village. » Alors le processus de guérison de cet aveugle est pas tout à fait habituel. Alors c'est vrai que Jésus a guéri beaucoup de malades, il a guéri, en tout cas les évangiles nous rapportent au moins 4 guérisons d'aveugles, et il n'y a aucun miracle, il n'y a aucune guérison qui se ressemble exactement. Alors c'est un petit peu normal, parce que quand on y réfléchit, Jésus, quand il guérissait, quand il touchait les gens, il s'adaptait à la situation. Il connaissait les besoins des gens qui étaient autour de lui, Et il les touchait là où il fallait les toucher. Il les enseignait là où il fallait. Donc qu'il n'y ait pas exactement un miracle ou une guérison qui soit exactement identique, c'est normal. Mais celui-ci en particulier est tout à fait différent. Ce qui attire le plus l'attention, c'est que dans cette guérison, Jésus se reprend à deux fois pour guérir cet aveugle. Et c'est la seule fois dans tous les évangiles où Jésus se reprend à deux fois pour faire un miracle. Il a guéri des aveugles, en les touchant. Il y a des gens qui ont été guéris simplement en touchant le bord de son vêtement. Il a guéri à distance. Il a même ressuscité des morts. Et à chaque fois du premier coup. Alors pourquoi ici est-ce qu'il s'y reprend à deux fois? Est-ce que c'était parce que ses pouvoirs étaient affaiblis à ce moment-là? Est-ce que c'était parce que c'était une forme de cécité qui était particulièrement difficile à guérir? Alors il y a des commentateurs qui ont émis l'hypothèse que cette guérison a lieu à un moment où Jésus avait beaucoup d'opposition contre lui. Et donc il était affaibli et il fallait qu'il s'y reprenne à deux fois. D'autres commentateurs pensent que c'était la foi de l'aveugle qui n'était pas assez forte. Et donc il fallait qu'elle soit affermie, il fallait que Jésus le touche deux fois. Alors moi, personnellement, j'ai du mal avec ces hypothèses. Vous aussi? Tant mieux. Parce que quand on regarde tous les récits des évangiles, Jésus, quand il guérit, use de son pouvoir, comme bon lui semble, et à chaque fois, c'est adapté à la situation. Il n'était jamais limité par l'incrédulité des gens qui étaient autour de lui. Il n'était jamais limité par l'opposition des gens qui étaient autour de lui. Jésus est toujours aux commandes. Il n'est jamais surpris. Et moi, je crois qu'au contraire, ce passage montre toute la souveraineté de Dieu qui se manifeste au travers de Jésus-Christ. Parce que si on regarde de plus près, qu'est-ce qui se passe? On lui amène un aveugle, et c'est Jésus qui lui amène à l'extérieur de la ville. Il n'y a que l'aveugle, Jésus et ses disciples. Jésus a choisi l'auditoire, il a choisi le public devant lequel il allait faire ce miracle. Et puis, dans le déroulement de la guérison, c'est Jésus qui mène l'interrogatoire. C'est Jésus qui interroge l'aveugle et lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Est-ce que vous pensez vraiment que Jésus avait besoin de lui poser la question pour savoir ce qu'il pensait, de ce qu'il voyait? De nombreuses fois dans les évangiles, on voit Jésus dans des situations avec des gens autour de lui, souvent de l'opposition, et il sait exactement ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur des gens. Et il répond en fonction. Et là, il ne saurait pas. Moi, je crois que si Jésus se reprend à deux fois pour guérir cet aveugle, c'est parce que c'est un acte délibéré. Il est là à l'écart avec ses disciples. Et en fait, il est en train de les enseigner, de leur montrer quelque chose. Parce que Jésus ne guérissait pas simplement pour le plaisir de guérir. Les miracles, les guérisons, c'était des signes de ce que Jésus était et de ce que le royaume de Dieu était. C'était comme des paraboles, mais en action. Alors on parlerait peut-être de leçons de choses aujourd'hui. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu dépassé maintenant, mais c'est exactement ça. C'est une illustration pratique d'une vérité qu'il est en train de transmettre à ses disciples. Et ici, la salive de Jésus qu'il applique sur les yeux, c'est le symbole de sa parole. C'est quelque chose de visible pour illustrer quelque chose qui est invisible. Alors, il y a l'auteur de la lettre aux Hébreux qui dit ça de manière encore plus imagée, et je trouve très joli. C'est dans le chapitre 11 et le verset 3, je vais vous le lire. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Jésus, c'est le maître parfait. Et il enseigne ses disciples par ce qu'il dit, mais aussi par ce qu'il fait. Et cette guérison, à ce moment-là, dans ce cadre-là, c'était un enseignement pour ses disciples. parce qu'il veut que ses disciples, et nous maintenant, voient, c'est-à-dire comprennent, comment était Jésus, et qu'il soit, que leur intelligence soit ouverte par sa parole, pour qu'ils puissent le voir clairement et comprendre qui il est vraiment. Et si on comprend cette guérison de cette manière-là, si on le voit comme ça, alors ce petit miracle, cette petite guérison, est une bonne introduction à la suite du passage. Jésus, pendant son ministère avec ses disciples, passe 3 ans avec eux. Il passe 3 ans à les enseigner, à leur expliquer, à les préparer, à les former. Et très souvent, ils ne comprennent pas. Ils passent à côté de ce qu'il est en train de dire. Et on en a l'illustration dans le passage qui précède le passage qu'on lit ce matin. Jésus vient de nourrir 4000 personnes avec 5 petits pains et, quelques petits poissons. Et puis ils se sont retirés, ils sont dans une barque avec Jésus. Et Jésus est en train de leur dire, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'est-à-dire, faites attention à leur enseignement. Et la réaction des disciples, c'est quoi? Mince, ils nous reprochent d'avoir oublié le pain. C'est presque comique. Je dis presque parce que, est-ce que parfois on n'est pas dans cette situation-là? Est-ce que parfois le Seigneur nous enseigne par sa parole, il nous dit quelque chose, et nous on se préoccupe de quelque chose qui est secondaire? D'avoir oublié le pain. En tout cas, ce récit de miracle, il se termine un peu bizarrement. Pourquoi est-ce que Jésus demande à l'aveugle de rentrer directement chez lui et de ne pas passer par le village? Et on le voit à plusieurs reprises. Quand il effectue certaines guérisons, il leur dit, ne rentrez pas au village, rentrez directement chez vous. Ne parlez pas, ne dites pas ce qui s'est passé. Alors pourquoi? Jésus était venu pour une mission. Il était en route pour la croix. Il était en route pour payer le péché de l'humanité. Et rien ne devait l'empêcher d'y arriver. Dans Jean, au chapitre 6, l'apôtre Jean relate cette histoire, après encore une multiplication de pain, que Jésus était obligé de se retirer parce que sinon la foule allait le couronner roi de force. Avoir une mauvaise vision de Jésus pouvait l'empêcher d'accomplir sa mission. Jésus est Dieu, il maîtrise son agenda, il sait qu'il doit aller à la croix, il sait quand, il sait comment, il connaît les étapes et rien ne va l'empêcher de le faire. Puis l'histoire continue, au verset 27. Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? Ils lui répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Alors il leur demanda, et vous? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui répondit, tu es le Messie. Pourquoi est-ce que Jésus pose-t-il des questions? Il sait ce que les gens pensent. Il connaît les cœurs. Il sait en détail les pensées de chacun. Alors on sait comment les autorités religieuses pensaient, comment est-ce qu'ils voyaient Jésus. Toujours dans Marc, dans les passages précédents, on voit comment les pharisiens étaient toujours à lui poser des questions, mais ils n'étaient jamais intéressés par les réponses. Ce qu'ils voulaient, c'était le piéger, c'était s'en débarrasser. Parce que leur tradition, leur loi, leur pouvoir étaient déstabilisés par Jésus. Alors nous aussi, on a nos traditions. Alors même si notre famille d'église assez construit plutôt dans le rejet de certains formalismes. On a nos traditions, on a nos habitudes. Et la question, c'est pas est-ce qu'il faut avoir des traditions ou des habitudes ou une liturgie. La question, c'est de savoir à quoi elles sont connectées, ou plutôt à qui elles sont connectées. Parce que si on vient au culte le dimanche matin, ou quand on pose notre offrande, quand on éduque nos enfants, quand on est au service dans l'église locale, si on ne voit pas clairement Jésus, alors notre justice ne vaut pas mieux que celle des pharisiens. Et on a besoin que Dieu porte le regard sur notre vie. Que ce que nous sommes, que ce que nous faisons soit toujours en lien avec Jésus-Christ. Et on a cette belle prière du psalmiste, c'est au psaume 139, qui nous donne cette prière qu'on peut adresser à Dieu. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Jésus a posé deux questions à ses disciples. Ce n'était pas pour avoir des informations sur son identité, sur son état civil, mais pour savoir ce que les gens pensaient. La première, c'était « Que pensait le peuple de Jésus ?» Jean-Baptiste, le plus grand prophète, Jésus dit de lui que c'est le plus grand homme qui soit né. Élie, un très grand prophète de l'Ancien Testament, qui n'a pas connu la mort parce qu'il a été enlevé dans un chariot de feu. Ou encore un prophète, un grand prophète de l'Ancien Testament, que Dieu a enlevé, que Dieu a ressuscité. Alors si on lit le chapitre 6 de Marc, on voit qu'en fait le peuple pensait déjà ça de Jésus. En quelques mois, rien n'a changé. Jésus guérit, Jésus enseigne avec autorité, il touche les gens, il touche les cœurs, et le peuple a une bonne image de lui. C'est une vision positive. Et encore aujourd'hui, chacun a à se positionner et à réfléchir de comment il voit Jésus. Et on voit autour de nous que les gens voient Jésus encore aujourd'hui. Prends l'exemple des musulmans. Les musulmans croient que Jésus existe et que c'était un grand prophète. Mais c'était un homme, c'était pas Dieu. Les musulmans ont même une espérance envers Jésus-Christ. Ils pensent qu'il reviendra à la fin des temps. Un grand prophète. Et beaucoup de gens voient Jésus une personne exceptionnelle. Ils voient en lui un message de paix et d'amour, quelqu'un de bien, un bon gars, comme il y en a eu d'autres. Le problème avec cette façon de voir Jésus, c'est qu'on ne s'attache pas à lui. Au mieux, on s'attache à des valeurs bonnes, mais il n'y a pas de soumission de vie à Jésus-Christ. Jésus est mis au mieux sur un piédestal ou sur une étagère poussiéreuse. Il a peut-être une influence positive, mais il n'y a pas de transformation de vie. Il n'y a pas de relation personnelle avec lui. Et le problème, c'est que Jésus n'est pas venu pour ça. Comment me voyez-vous ? C'est la question que Jésus pose à ses disciples. C'est la question qu'il nous pose aussi à nous. Et l'objectif, ce n'était pas d'avoir la bonne réponse de la part de ses disciples. Jésus savait ce qu'ils avaient dans la tête. Ce n'était pas une information qu'ils cherchaient, mais plutôt une façon de les faire se réfléchir. Est-ce qu'on prend bien le temps, chacun d'entre nous, de se poser et de réfléchir, qui est Jésus pour moi ? Pierre, en tout cas, lui, ne tarde pas. Jésus, tu es le Messie. Et c'est la bonne réponse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Messie ? Alors, Messie vient de l'hébreu. Ça veut dire oint, c'est-à-dire qu'il a reçu l'onction. Et dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile était le signe de la consécration d'une personne pour un office particulier. prophète, roi, sacrificateur. Et le Messie promis, le libérateur, loin par excellence, était décrit comme occupant ces trois fonctions à la fois. Et ça désigne Jésus et uniquement lui. Jésus est la parole faite chair, le porte-parole de Dieu par excellence, prophète selon l'Ancien Testament. Il est souverain sacrificateur par excellence parce qu'il a porté à Dieu par son corps les péchés de son peuple. Et son sacrifice nous libère du péché. Il est roi des rois, il est Dieu tout-puissant. Et la traduction de Messie en grec nous a donné Christ. Donc Christ ou Messie, c'est un titre. Et c'est un titre qui désigne une seule personne, c'est Jésus. Donc quand Pierre répond, il est juste. Et il en a fait du chemin. Alors Pierre, c'est un petit peu le porte-parole du groupe. C'est lui qui ose dire tout haut ce que les autres ont du mal à dire et qui pensent tout bas. Et les disciples aussi ont fait du chemin. Dans le chapitre 4 de Marc, on a cet épisode où ils sont tous dans une barque. Et Jésus dort. Et il y a une tempête qui se lève. Les disciples sont paniqués et ils réveillent Jésus. Et Jésus se lève. Et il ordonne à la tempête de se calmer, et elle se calme. Et à ce moment-là, Marc nous rapporte qu'ils se disent « Mais qui est donc cet homme pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Et des mois ont passé, et Jésus les a enseignés, il les a même envoyés sur les routes, témoigner de lui, accomplir des miracles en son nom. Ils ont appris à le connaître, ils étaient en relation avec lui. Et maintenant, ils ont tout compris, ou presque. Quand Matthieu relate ce même récit, c'est dans le chapitre 16, il ajoute une petite précision de Jésus suite à la déclaration de Pierre. Et Jésus dit, « Tu es heureux, Simon Pierre, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Ils étaient aveugles. En fait, ils n'avaient aucune idée de qui était Jésus. Et il a fallu que Dieu leur ouvre les yeux. Et cette déclaration de Pierre, elle se trouve au milieu de l'évangile de Marc, chapitre 8, sur les 16 qui y sont. C'est une déclaration qui est centrale dans l'évangile de Marc et elle est centrale dans l'évangile tout court. Jésus est le Messie. Et jusqu'à présent, les disciples et l'enseignement que Jésus leur apportait, c'était de justement arriver à cette déclaration. Une fois qu'ils ont révélé, été éclairés par le Père, maintenant ils peuvent passer à l'étape suivante. Et la question, ça ne va plus être qui est Jésus, mais quel genre de Messie est Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et qu'est-ce que ça implique par rapport à moi qui veux le suivre? Et cette étape, elle est franchie seulement parce que Dieu leur a révélé. C'est Dieu qui a révélé, renouvelé leur intelligence, qui leur permet de faire cette déclaration. Il fallait qu'ils comprennent d'abord que Jésus était le Messie. Et encore une fois, ce récit se termine un petit peu bizarrement. Parce que Jésus leur ordonne de ne le dire à personne. Encore une fois, pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle avec l'histoire de l'aveugle? Si Jésus envoie ses disciples maintenant avec cette révélation qu'il est le Messie, avec une compréhension partielle de ce qui était le Messie, est-ce que ça ne va pas le freiner dans sa mission? Si les disciples vont dans le peuple, qui est déjà une vision positive de Jésus, ils disent « Oui, on vous confirme, c'est le Messie, c'est le libérateur qu'on doit avoir. » Il y aurait eu une révolution. Jésus n'aurait jamais pu être crucifié. Il y aurait eu une guerre civile. Parce qu'ils n'avaient qu'une vision partielle de qui était Jésus et de quelle mission il était venu faire. Et c'est pour ça que Jésus peut leur préciser maintenant. C'est le verset 31. Et il commença à leur enseigner. que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Et il leur dit tout cela très clairement. C'est marrant comme quoi il y a des choses qu'on a du mal à voir ou qu'on n'a pas envie de voir. Pourtant, les souffrances du Messie sont décrites dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans Ésaïe, dans quelques livres de prophètes. Alors c'est vrai que ce n'est pas ce qui est le plus mis en avant. C'est vrai que c'était voilé, mais c'était bien là. Et même avec ses disciples, avec le peuple, Jésus n'utilisait que des images pour expliquer ce qui allait lui arriver, quelle mission il était venu accomplir. Mais maintenant, Jésus le dit clairement à ses disciples. Plus d'images, plus de paraboles, pas d'illustrations, juste les faits. Il va mourir et il va souffrir. Sa mort est volontaire. Il donne sa vie. Il va mourir pour une raison. C'est la raison pour laquelle il est là. Et ce sera un assassinat. Et il désigne les responsables. Et il va ressusciter 3 jours après. Marc relate 3 occasions où Jésus leur dit clairement, simplement, de manière concise, la mission pour laquelle il est venu et comment ça va se dérouler. On ne peut pas faire plus simple. Ici au chapitre 8, au chapitre 9 et au chapitre 10. Et Marc, inspiré par l'Esprit, a entouré ces 3 déclarations de Jésus par 2 guérisons d'aveugles, comme pour nous dire qu'on a besoin d'être éclairé sur la mission entière de notre Seigneur. Pour les disciples, il y a 2000 ans, et puis pour nous aussi aujourd'hui. Alors le rythme et le style très énergique de Marc nous donne l'impression que tout ça, ça s'enchaîne. On a du mal à voir comment il arrive à condenser 3 ans en juste quelques chapitres. Mais c'est son style qui veut ça. Et tout de suite après, ils sont en chemin entre Bethsaïda et Césarée de Philippe. Il y a entre 30 et 40 kilomètres. Ils sont en chemin physiquement avec Jésus, ils sont en chemin spirituellement avec Jésus. Jésus est en train de les enseigner et ça va transformer leur vie. Jésus sait où il va et il sait où il veut amener ses disciples. Et il fait la même chose avec nous. Combien de temps ils ont mis pour faire ce chemin? Si on marche à 5 km/h, peut-être une journée, peut-être plusieurs jours, je ne sais pas. Probablement que pendant ce temps, les disciples discutaient un petit peu entre eux. Et je ne sais pas si la réaction de Pierre, elle est arrivée tout de suite, ou est-ce qu'au bout d'un moment de discuter entre eux, au bout d'un moment de se ressasser les choses, il n'en pouvait plus. Il a dit, il faut que je dise quelque chose à Jésus, parce que là, son histoire de souffrance, là, ça ne me convient pas. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. C'est rude. Après avoir fait la plus belle, la plus grande déclaration sur Jésus, après avoir proclamé que Jésus est le Messie, le libérateur promis, celui qui va venir régner pour l'éternité, Dieu, Pierre fait la plus grosse bourde. C'est un peu si, comme s'il lui disait, attends Jésus, tu es le Messie, tu es Dieu, ok, mais en fait tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer moi ce qu'il faut comprendre. Enfin, le Messie, ce n'est pas ce que tu as dit, c'est ça. Pourtant Jésus, il a mis beaucoup de pédagogie, ça fait un moment qu'il travaille avec eux, ça fait un moment qu'il travaille avec Pierre, et il n'a toujours pas compris, il est toujours à côté de la plaque. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont idiots? Et c'est vrai que les évangiles ne dépendent pas des super disciples, des super apôtres qui étaient nickel et qui comprenaient tout du premier coup. On a une vision assez vraie de ce qu'étaient les disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Et je crois qu'on a la réponse dans le verset 33, le dernier du texte de ce matin. Et Jésus se retourna, regarda ses disciples. Il ne parle pas qu'à Pierre. Il va attirer leur attention à tous. Et il reprit Pierre sévèrement. Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Quand Pierre proclame que Jésus est le Messie, il le dit parce que Dieu lui a révélé. C'est la pensée de Dieu qui est plantée dans son cœur, qui renouvelle son intelligence. Ce n'est pas sa propre logique. Par contre, quand Pierre reprend Jésus, il se base sur sa propre compréhension des choses, sur sa propre logique, sur sa compréhension de ce que devait être le Messie. Une pensée humaine qui est incompatible avec celle de Dieu. Et en fait, là, Pierre, ce qu'il fait, ce n'est que d'exprimer ce que l'homme exprime depuis qu'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont pris le fruit défendu. C'est la rébellion à Dieu. C'est lui dire, moi, je sais mieux que toi. C'est moi d'abord. C'est moi qui choisis. J'ai pas besoin de toi, le Dieu créateur, qui m'a créé, pour m'expliquer comment il faut que je fasse les choses. Pour voir Jésus clairement, il faut qu'il nous enseigne par sa parole. Il faut que Dieu se révèle à nous et qu'il renouvelle notre intelligence, qu'il nous guérisse de notre incrédulité, parce que c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous reprend, c'est lui qui nous restaure. Et on a besoin et on doit soumettre notre volonté, notre façon de voir à la sienne. Il y a deux encouragements avec lesquels je voudrais terminer ce matin, en lien avec le texte et en lien particulièrement avec Pierre. Moi, j'admire la patience et l'amour que Jésus déploie envers Pierre. Pierre est souvent le premier à parler. Il est fougueux, c'est un leader. Mais souvent, les mots sortent de sa bouche avant qu'il ait réfléchi. Mais c'est vrai qu'il ose dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et même si c'est un leader, on pourrait dire c'est une grande gueule aussi, il se prend des murs et il les prend fort et il ne les voit pas arriver. Moi, il me fait penser parfois à ces enfants qu'on peut avoir à l'école du dimanche, à l'école, dans les groupes de jeunes, qui ont toujours quelque chose à dire ou quelque chose à faire. Ils ont du mal à tenir en place. Et ces enfants-là, quand on arrive à les canaliser, ça peut être des formidables moteurs pour un groupe de jeunes, pour un groupe d'enfants. Parce qu'ils vont donner la réponse tout de suite. Alors c'est vrai que c'est fatigant pour nous. Mais c'est une manière de pouvoir reprendre, de pouvoir voir ce que pense vraiment le groupe. Et bien canaliser, c'est quelqu'un qui peut être un moteur dans un groupe. Parce que dans un groupe de jeunes, dans un groupe d'enfants, dans un groupe d'adultes. Il n'y a rien de pire que quand on n'a que les bonnes réponses chrétiennes à donner. C'est juste. Mais si on se contente simplement de répondre correctement à la question, où est la transformation de vie? Où sont les doutes qu'on a légitimement? Voir Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le connaître et connaître des faits sur lui. Ce sont des bonnes choses. Mais c'est les croire, c'est les vivre, c'est être en relation avec lui. C'est aussi avoir des questions, c'est avoir des doutes, même ne pas être d'accord. Mais quand ça arrive, c'est lui dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Tu l'as écrit, et je te fais confiance parce que tu es Dieu. Éclaire-moi, enseigne-moi, Change-moi, transforme-moi, enlève mes pensées humaines et remplace-les par tes pensées à toi. Le plus grand mur que Pierre va se prendre, c'est au moment du reniement. Il n'a pas vu venir. Jésus, je le savais. Jésus l'a même averti. Il lui a donné le cadre. Tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Et la réaction de Pierre, non, ça ne va pas arriver. Et quand il prend, quand il se réalise que c'est tout là, Pierre est brisé. À ce moment-là, il réalise enfin qu'il ne peut rien de lui-même. Tout ce qui est fait sur ses efforts sont vains. Et sa formation était presque terminée. L'évangile de Jean se termine par la restauration de Pierre et la mission que Dieu, que Jésus lui confie dans son Église. Pierre était toujours le leader fougueux. À la Pentecôte, qui c'est qui se lève et qui parle devant tous les Juifs assemblés? C'est Pierre. Mais quelque chose avait changé. C'était plus ses pensées humaines qui le dirigeaient, mais c'était les pensées qui viennent de Dieu. Et ce qui avait changé à ce moment-là, c'était la croix de Jésus-Christ, le Messie. Alors maintenant, Pierre voit Jésus-Christ clairement. Ça a pris du temps et ça fait mal. Mais ce que Jésus a commencé à faire en lui, il a mené jusqu'au bout. Et pour Pierre, il a fait du sur-mesure. Et ce sur-mesure-là, il le fait aussi pour nous. Il nous connaît, il connaît nos pensées, il sait comment on a été construit, il connaît notre passé, il connaît notre futur, il connaît nos sensibilités, il connaît là où on a du mal. Parce que lui nous a créés uniques, on n'est pas deux pareils, et il veut rentrer en relation avec nous. Et pour Pierre, ce n'était pas fini. C'était juste le début. Il était apte maintenant pour le service, pour aller faire des disciples. Alors pour nous, quand on a des doutes, quand j'ai des doutes, je pense à Pierre. Parce que si Jésus a réussi avec Pierre, alors il peut y arriver avec moi. Il peut y arriver avec toi. Je vous propose de passer juste quelques instants dans le silence. Et puis je terminerai par la prière.